Sud Radio.
Seul.
Seul.
Contre tous.
Contre tous. 9h, 11h.
Philippe David.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Philippe David que vous accueillez. Bonjour Philippe.
Bonjour Marc.
Ça va ?
En pleine forme.
Le week-end fut bon ?
Le week-end fut bon, mais pour commencer la semaine, on ne peut être qu'en pleine forme.
Bon, eh ben écoutez, tant mieux, on en reparlera vendredi alors. Oui. Bon, allez, 9h07, on commence, c'est le premier seul contre tous. Bon, vous connaissez le principe de l'émission, 0826-300-300, sudradio.fr. On va parler de la contraception et d'après ce que vous nous dites, on est en retard hein, en France.
Oh, oui, Philippe. On est très en retard, c'est aujourd'hui lundi 26 septembre, la journée mondiale de la contraception. Il y a presque 50 ans, décembre 1967, c'était la loi Neuwirth, la loi qui légalisait la contraception orale et qui avait valu une phrase historique du général de Gaulle, qui n'était pas partisan de cette loi, qui avait dit « Je ne sacrifierai pas la France à la bagatelle », une phrase qui a fait florès. Il y a presque 50 ans, la loi Neuwirth, et pourtant c'est un échec massif, puisque chaque année il y a encore plus de 200 000 avortements en France. Alors oui, je le redis, contraception, on est en retard. En Île-de-France, une lycéenne sur 10 a déjà avorté et une sur 5 a déjà eu recours à la contraception. Enfin, 16% des étudiantes ne prennent pas la pilule par peur des problèmes de santé, ce qui m'oblige à le redire, contraception, on est en retard. Ce n'est pas normal que les chiffres ne s'améliorent pas, les causes étant multiples comme les pilules non remboursées ou encore les croyances archaïques. Contraception, on est en retard. Face à moi, Valentina Salona, conseillère en symptothermie, sextothérapeute et professeure de yoga, qui a 10 ans d'expérience en contraception écologique, et Tuc Duhalderville, délégué général d'Alliance Vita, association pro-vie militant contre l'avortement et l'euthanasie, et auteur du livre « Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine » publié chez Plomb. Valentina Salona, bonjour.
Bonjour Philippe David.
Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes une personnalité outre Jura puisque vous êtes en Suisse. Alors,
oui.
En Suisse peut-être aussi, contraception, on est en retard.
Je dirais pas forcément parce que la Suisse en fait représente l'un des pays qui avance du point de vue des études sur le cycle menstruel, sur le cycle de la femme et notamment ici à Lausanne, depuis l'endroit où je vous parle, il y a la fondation Symptotherme qui a mis en place le logiciel sympto.org qui est parmi les applications les plus sûres sur la fertilité au naturel, la contraception écologique et naturelle.
Ah, on va en parler un peu plus tard de la contraception écologique et naturelle parce que comme c'est la journée mondiale de la contraception, on va se poser les questions qui fâchent et les questions également qui nous intéressent. Vous me passerez l'expression pour faire avancer le schmilblick. Tuc Duhalderville, bonjour.
Bonjour Philippe David.
Bienvenue sur Sud Radio, vous entendez les chiffres, ils sont quand même effarants. Contraception, on est vraiment très en retard.
Je crois que vous avez raison de pointer la surprise que l'on a d'avoir un taux d'IVG, vous l'avez exprimé.
Interruption volontaire de grossesse.
Voilà, très très fort en France. Et effectivement, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe contraceptif français. Et donc, il faut vraiment en prendre compte, il est publié par les autorités sanitaires françaises, 72% des femmes aujourd'hui qui ont une IVG, c'est l'IGAS qui le dit.
C'est sous contraception, voilà. On va en parler un peu plus tard.
Utiliser une méthode de contraception. Et donc, dans votre rôle aujourd'hui, dans votre parti pris pour la contraception, moi je dis attention à l'illusion d'une confusion entre l'efficacité théorique d'une méthode et l'efficacité pratique. L'efficacité théorique, elle peut être bonne et en réalité, on le sait, prendre tous les jours un médicament prescrit par un médecin, les femmes peuvent se lasser, les femmes peuvent oublier. 54% des femmes disent avoir oublié dans les 3 mois qui précèdent une pilule. Et donc, c'est une illusion de penser qu'un taux record, comme on l'a en France, d'usage de produits contraceptifs aboutit à peu d'avortements. C'est l'inverse qui se produit spécialement chez les jeunes. Et nous lançons donc une alerte en disant attention à ne pas faire croire qu'une dissociation absolue entre sexualité et procréation peut advenir. Parce que c'est contraire à ce qu'expérimentent les gens, les couples, les femmes, et il faut peut-être effectivement davantage responsabiliser les hommes et les femmes à partir de la connaissance du cycle féminin qui est passé sous silence dans les méthodes chimiques contraceptives.
Vous avez mis le doigt là où ça fait mal, Tuc Duhalderville, il faut aussi responsabiliser les hommes parce que la contraception, c'est comme les enfants, ça se pratique à deux. Valentina Salona, En France, le nombre d'avortements ne baisse pas depuis la loi Veil sur l'IVG, c'est janvier 1975, donc ça fait 41 ans. Qu'en est-il en Suisse ?
Alors en Suisse, du point de vue des chiffres, je pense que les choses commencent à s'améliorer puisqu'on assiste à une augmentation de la pratique justement des méthodes de responsabilisation dont M. Derville parlait. Et en fait, même on a une baisse de la prise de la pilule contraceptive qui a été indiquée par les grandes sociétés pharmaceutiques ces derniers mois en fait. Et le mois d'août 2016, il y a même une étude américaine qui a pu démontrer en fait la validité des méthodes naturelles, notamment de l'observation claire des signes de fertilité dans le cycle de la femme, qui fait que le couple est engagé dans la responsabilité de la fertilité. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'homme doit être engagé dans la fertilité du couple. Du
coup, le nombre d'avortements baisse en Suisse ou pas ?
Bonne question. Franchement, je pense que on est dans les mêmes chiffres que la France.
D'accord, ça reste stable année.
Ça
reste stable année après année.
Alors le sondage et la plateforme sudradio.fr contraception, on est en retard. Dites-vous, c'est la prise de position de Philippe, dans Seul contre tous. Eh bien, vous êtes d'accord pour l'instant à 64%, 36% de non. Quelques interventions que nous lirons dans quelques instants. Donc, avec ceux et celles qui ont envie de laisser des messages, le numéro de téléphone pour nous joindre et participer au débat 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio.
Seul.
Contre tous. 9h-11h.
Philippe David.
La contraception, visiblement, est en retard. C'est la prise de position de Philippe David. Il y a un commentaire, Philippe, de Harry sur sudradio.fr qui nous dit « Prendre la pilule pendant 20 ans, c'est le nouvel esclavage que certaines femmes considèrent encore comme une libération. »
Je vais poser la question à nos deux invités. Ferai réagir Tuc Duel d'Herville juste après sur la précédente question. Valentina Salona, par galanterie, je reprends par Valentina Salona. Prendre la pilule, c'est l'esclavage ?
Du point de vue idéologique, je trouve que oui. Ceci dit, il y a quand même une problématique face aux jeunes et face un peu aux femmes qui ont de la peine à s'assumer, à intégrer leur nature de femme, à revenir à une certaine responsabilisation. Donc d'un côté, oui, ça peut être un esclavage parce qu'on n'est pas dans la conscientisation de ce qui on est, de notre corps physique, de notre système cyclique, mais d'un autre côté, chez certaines femmes, s'oublier peut répondre à beaucoup de questions et donc ça peut être une libération. Être femme, c'est pas facile, hein, on le sait.
C'était, comment elle s'appelle, Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ».
Tuc
Duel d'Herville, vous n'êtes pas née femme, ça se voit, vous avez la barbe en plus. Alors pour vous, la pilule, c'est un esclavage ?
Moi, je ne sais pas s'il faut utiliser ces mots qui sont très forts, mais je crois qu'effectivement, il y a une lassitude. Et vous l'avez dit, depuis 50 ans maintenant, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert que prendre des hormones de synthèse au quotidien, ce n'est pas évident. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la libido, ça a des conséquences sur le cycle féminin qui est interrompu. Et un certain nombre de femmes s'interrogent légitimement sur, effectivement, est-ce que c'est vraiment libérateur de dépendre d'une prescription médicale au quotidien pour réguler sa fécondité. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de faire qui respecteraient davantage ce que moi je peux appeler l'écologie humaine ? Et on le sait, il y a eu un certain nombre de scandales sanitaires, il y a eu, vous savez, le déremboursement des pilules.
On parle de la dépakine en ce moment, qui est un nouveau scandale sanitaire, et il y en a eu de nombreux auparavant.
Oui, mais il y a eu le déremboursement en 2013 des pilules de 3e et 4e génération, parce qu'on avait découvert que, en tout cas pour quelques personnes, il y avait eu des effets gravissimes. Et donc, il y a une sensibilité aujourd'hui à l'écologie, au respect du corps, et je trouve que s'orienter davantage vers des méthodes naturelles, moins invasives pour le corps d'une femme, aurait un double avantage. Premier avantage, c'est effectivement de respecter cette féminité, le cycle naturel de la femme, dans lequel elle exprime, y compris sur le plan de la libido, du désir sexuel, des moments plus favorables que d'autres, plutôt que d'être, pardon d'expression, une sorte de castration chimique qui fait que finalement elle ne ressent plus les choses. Et puis aussi, ça aurait l'avantage de davantage responsabiliser les hommes. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, sur les femmes que pèse cette régulation des naissances, et lorsqu'il y a un accident de contraception, et c'est pour l'essentiel à cause de ces accidents de contraception qu'il y a un très fort taux d'avortement en France, les hommes disent à leur compagne d'avorter. Grosso modo, ils leur disent, j'en suis témoin dans nos services d'aide SOS bébé, tu nous m'as fait un bébé dans le dos, et bien maintenant assume les conséquences. Et elle porte la double charge, à la fois de la régulation et éventuellement de l'avortement, souvent à contre-cœur. Et donc il y a, on l'a vu, notamment chez les plus jeunes, et ça c'est le souci que vous avez évoqué au tout début de l'émission, un très fort taux d'usage de ce qu'on appelle la contraception d'urgence, hein, qu'elles
utilisent du lendemain.
Voilà, très fortement, et également la montée simultanée du taux d'IVG chez les mineurs. Et là, ça nous interroge sur la responsabilisation que ce type de...
On va en parler aussi, mais vous avez une nouvelle fois tendu une perche, Tuc du Helderville. Valentina Salona, vous avez entendu la contraception naturelle dont a parlé Tuc du Helderville. Exposez-nous votre contraception naturelle qui, paraît-il, marche de plus en plus fort en Suisse.
Oui, donc la première démarche à mettre en place, c'est de vérifier avec soi-même où on en est dans notre vie et où on en est avec la prise d'hormones de synthèse, si on en prend. Ou bien même si on prend des contraceptifs mécaniques comme le stérilet en cuivre ou autre. Et par rapport à cela, faire un bilan de ses propres attentes vis-à-vis de sa vie, de ses attentes émotionnelles, relationnelles. Et suite à ça, on peut commencer à décider de prendre la responsabilité de faire justement la démarche d'apprentissage de cette méthode naturelle qui fonctionne simplement sur des bases d'observation, c'est-à-dire qu'on va surtout au départ prendre la température au réveil, voilà. Et puis ensuite, on va faire l'observation précise de la glaire cervicale et de l'autopalpation du col de l'utérus. C'est-à-dire qu'on
Alors
va
vous
observer...
pouvez expliquer.
Oui, on va observer les changements de la glaire cervicale, ce que nous on appelle l'élixir de vie. Et ensuite, on va aussi vérifier les différentes positions du col de l'utérus et sa texture. Ceci, au départ, peut être un peu difficile, surtout si la femme a quelques réticences ou résistances avec son corps ou avec sa sexualité, donc à se toucher pour pouvoir extraire l'élixir de son vagin. Tout ça, ce n'est pas une pratique masturbatoire, mais c'est vraiment une pratique qui tend à mettre la femme de plus en plus à l'aise avec son corps. Et ça peut prendre du temps. Donc la méthode naturelle fonctionne à condition qu'il y ait une période d'apprentissage bien définie avec l'aide d'une monitrice, d'une conseillère, d'une experte qui peut accompagner la femme surtout au départ. Vous voyez, c'est un peu comme quand on prend le permis de conduire. Au départ, on a besoin du moniteur parce qu'on ne connaît rien à la voiture, on ne connaît rien.
Ou de la conduite accompagnée.
Pardon ?
Ou de la conduite accompagnée.
Exactement. C'est de la conduite accompagnée au départ pour venir vers certains automatismes d'observation où la femme vient prendre conscience des réactions hormonales, psychochimiques de son corps et peut suivre facilement et sans doute
Mais Valentina Salona, quel est le taux de succès ou le taux d'échec de votre méthode 100% écologique et naturelle, soit dit en passant?
Alors, j'aimerais me refaire à ce qu'il a dit Monsieur Derville, parce qu'il parlait effectivement d'une efficacité théorique et d'une efficacité pratique. Donc, du point de vue de l'efficacité théorique, on est au même niveau que la pilule, donc on est au même indice de perles, plus que 99%.
Excusez-moi, 99 en français.
Exactement, 99. Et je suis italienne, en plus j'ai appris le suisse, donc merci de votre compréhension.
Pas de souci.
Et donc l'efficacité pratique, elle est tout aussi bonne pour autant que la femme soit vraiment, vraiment engagée dans ses observations. Parce que je suis des femmes depuis 6 ans, 7 ans maintenant, et je remarque que quand il y a un désir d'enfant latent, elles régulièrement, comme elles peuvent oublier la pilule, elles peuvent oublier de prendre la température ou de s'observer.
Donc, Valentina Salona, je vais faire réagir Tuc du Helderville parce qu'après on doit faire une nouvelle pause. Tuc du Helderville, vous connaissiez la méthode de Valentina Salona?
Oui, tout à fait. Il y a en France un certain nombre de personnes qui utilisent et promeuvent ces méthodes. Il faut dire, et je rebondis sur ce que vient de dire Valentina Salona, il y a une ambivalence dans notre rapport à la sexualité et à la procréation. Et cette ambivalence, elle se traduit, ça vient d'être dit, par des oublis de pilules, qui souvent révèlent que dans un couple, il peut y avoir un désir mêlé de peur. Donc trop souvent, avec le système de la contraception hormonale, chimique, on bloque le système. Et quand intervient cet oubli de pilule, eh bien, les femmes je pense à une femme qui nous a dit, j'étais à la fois heureuse et terrifiée. Vous voyez, ce paradoxe. Des grossesses qu'on désire, on désire cet imprévu, en même temps, cet imprévu nous inquiète. Les méthodes naturelles, j'en termine juste, permettent justement d'accueillir cette ambivalence et d'ouvrir la possibilité dans certaines relations sexuelles, d'ouvrir cette possibilité à la vie, alors que les techniques chimiques sont très souvent extrêmement fermé à cette possibilité qui est considérée comme un échec.
Allez, on continue à en débattre avec nos invités. À tout de suite.
Sud Radio.
Seul. Contre tous.
9h-11h.
Philippe David.
Débat d'idées, prise de position, Philippe David sur Sud Radio, le premier sujet de Seul contre tous dans le cadre de cette journée mondiale de la contraception aujourd'hui, hein, lundi 26 septembre. Contraception, visiblement, on est en retard, nous dit Philippe David. Les prises de position de nos invités à retrouver, à réentendre évidemment dans quelques secondes. On est à 56% d'opinions favorables pour vous, en tout cas Philippe. 56, ça a baissé, hein, considérablement, on était à 64 hein, tout à l'heure.
Mais mieux vaut une courte majorité que pas de majorité du tout.
56% donc sont d'accord avec vous, la contraception en France, on a un problème, on est en retard.
On est en retard, oui, c'est l'idée que je défends. Et face à moi, Valentina Salona, conseillère en symptothermie, sexothérapeute et professeure de yoga, qui a 10 ans d'expérience en contraception écologique. Elle est en Suisse. Et Tuc Duhalderville, délégué général de l'Alliance Vita, association mouvement pro-vie et militant contre l'euthanasie et l'avortement, et auteur du Temps de l'Homme pour une révolution de l'écologie humaine, publié chez Plomb. Valentina Salona, on a parlé des méthodes naturelles. Vous avez dit que votre méthode a un taux de réussite à 99%, ce qui est à peu près l'équivalent de la pilule ou du stérilet. Rassurez-moi, c'est la seule méthode naturelle, parce qu'il y a comme méthode le retrait, par exemple, mais c'est loin d'être la méthode la plus fiable, on va dire ça comme ça.
Bah, disons que ce n'est pas considéré parmi les méthodes naturelles fiables. Au contraire, on la déconseille pour des raisons simplement techniques, parce que effectivement l'homme pourrait avoir quelques soucis dans le contrôle de son éjaculation, parce qu'on parle de cette fameuse goutte du bonheur, notamment chez les adolescents qui sont face au développement de leur sexualité, qui peuvent pas forcément encore gérer le cycle de la testostérone d'une manière fiable.
Et pour vous, Tuc Duhalderville, c'est quand même pas, c'est une méthode naturelle, mais c'est pas une méthode fiable, c'est pas une méthode à conseiller.
Non, bien sûr, depuis longtemps, je pense qu'on sait parfaitement, et dans les couples qu'on accompagne, on s'aperçoit qu'effectivement certains ont pu imaginer, inventer leur propre méthode, ce qui est très intéressant par rapport à, je dirais, la modernité des méthodes naturelles, c'est justement qu'elles assument la complexité à la fois psychique et physiologique du corps, de son fonctionnement. Ce que nous observons trop souvent en France chez les plus jeunes qui font appel à nos services, à notre aide, parce que je précise que nous accompagnons des couples qui sont en difficulté par rapport à la procréation et sans aucun jugement sur les personnes. Ce qu'on observe très souvent, c'est qu'il n'y a pas de connaissance chez les femmes de leur cycle. Elles ne savent pas vraiment quand est-ce qu'elles sont fécondes. Elles ne connaissent pas vraiment le phénomène de l'ovulation.
Comment expliquez-vous que les femmes ne connaissent pas ça en France en 2016? On avait mis les cours d'éducation sexuelle en France, c'était dans les années 70, c'était sous fin de Pompidou, début de Giscard d'Estaing, de mémoire. Comment expliquez-vous qu'il y ait encore autant de tabous? Parce que le cycle de la femme, la fécondité, vous me passerez l'expression, mais c'est la vie.
Ben oui, bien sûr, justement.
Sens du terme, d'ailleurs.
Et je n'ai pas parlé des hommes, alors qu'ils ignorent complètement cette réalité, qui peut-être l'ignorent aussi par dégoût, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais pourquoi vous l'avez exprimé? On a concentré toute l'éducation sur la prévention, soit des MST, ce qui est bien sûr nécessaire.
Notamment le sida.
Soit
qui n'a pas disparu, voilà. Faut-il le rappeler
bien
à
sûr.
Ce micro?
Soit des grossesses. Comme si les grossesses étaient des maladies. Et donc, on n'a pas expliqué, on n'a pas valorisé ce qu'était la fécondité. Et ce qui est très intéressant avec les méthodes symptothermiques, les méthodes naturelles, c'est qu'on concilie la régulation des naissances, la possibilité d'espacer si nécessaire, etc. La vie à la fois sexuelle et la régulation de naissance, on le concilie avec l'écologie de la personne, avec son corps, avec son cycle. Et donc, c'est une affaire du couple, c'est une affaire bien sûr de la femme et du couple. Et c'est extrêmement différent de méthodes simplement mécanique ou technique qui efface ce cycle et cette physiologie.
Mais tu duel Derby, on se parle franchement, on est sur Sud Radio. Le problème, il est où ? C'est à l'éducation nationale ou c'est aux parents de faire cette éducation ?
Ben je pense que les deux, mais les parents d'abord, bien sûr. Hein, on peut, de même qu'il y a des sages-femmes qui ont permis l'accouchement au fil des millénaires en se transmettant ce savoir, eh bien il y a, c'est peut-être le cas d'ailleurs de Valentina Salona, mais il y a une forme de sages-femmes qui peuvent apprendre aux filles, aux jeunes filles, ce qu'est leur fécondité, comment est-ce qu'elles peuvent se connaître, comment est-ce qu'elles peuvent réguler. Et ce que fait malheureusement trop souvent, ce que font trop souvent les pouvoirs publics, c'est uniquement d'avoir des injonctions, pardonnez-moi, hygiénistes. Et il y a d'ailleurs une injonction contradictoire qui pèse sur les jeunes. On leur dit entrez le plus tôt possible dans la vie sexuelle, libérez-vous, mais surtout n'ayez pas de bébé, n'ayez pas d'enfant. Au point qu'en France d'ailleurs, les premiers enfants arrivent désormais à 30 ans en moyenne. Absurde, c'est le moment où il y a la plus grande fécondité.
C'est 24 ans pour la femme, la fécondité maximale, je crois.
Oui, ça fait 24 ans. Et aujourd'hui, en France, le premier enfant, en moyenne, c'est au-delà de 30 ans. Vous voyez qu'on dissocie artificiellement cette relation sexuelle de la fécondité, comme si c'était un problème associé à la relation sexuelle, plutôt que d'unir les deux, alors que les désirs les plus profonds, spécialement des jeunes filles, est une unité entre leur vie affective, leur vie sexuelle et l'éventuel engagement dans l'amour durable qu'elle désire.
Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent carrière, donc qui sont beaucoup plus carriéristes. Il y a la libération de la femme dont on parle constamment, l'égalité des sexes, etc. Donc le fait d'avoir des enfants à 30 ans, c'est pas extrêmement choquant. Hein. C'est pas quelque chose qui est...
Disons que l'horloge biologique tourne, et donc nous retrouvons avec des femmes parfois de 40 ans et plus qui découvrent qu'elles n'ont pas mis en route cette fécondité à laquelle elles aspirent, alors qu'il est un peu tard. Et donc il y a effectivement, je crois, une nécessité très forte d'un féminisme qui concilie ce désir de fécondité et d'engendrement légitime, naturel, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, avec la possibilité de faire une carrière. Mais quand on voit que des grandes entreprises américaines proposent aux femmes de congeler leurs ovocytes pour pouvoir faire une carrière plus tardive, oui, nous disons
à l'américaine.
Voilà, mais quel est le sens?
C'est quand même une dérive absolument incroyable qu'on ne verra, à mon avis, jamais en France.
Juste une chose qui est importante de ce que vous disiez il y a quelques instants, notamment sur la famille, les parents. Là, je pense qu'il faut oublier tout de suite. C'est-à-dire que il y a un très très gros problème de communication. Ça vous fait sourire, mais je pense que c'est une réalité. Moi, je connais très très peu de familles qui ont l'occasion de parler de sexualité avec leurs enfants.
Hein. Ben, je sais pas, moi j'en ai l'expérience des deux côtés, en tant que fils et en tant que père, et je pense que c'est très important.
Ce serait logique, ce serait normal.
Ça ne suffit pas forcément, mais justement laisser à des injonctions étatiques le soin de nous expliquer comment vivre, c'est courir à notre... aseptiser, c'est faire perdre beaucoup de sel. C'est extrêmement compliqué de parler de sexualité, c'est très intime, c'est très personnel.
Surtout pour un prof devant 30 élèves.
Oui, mais même dans un couple, il y a des couples qui n'arrivent pas à en parler. Mmh. Pratiquement tous les jours, on a des femmes qui viennent, qui sont enceintes et qui ne l'ont pas dit à leur compagnon, qui ne savent pas comment le dire. Et quand elles le disent au compagnon, ils changent de visage parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Pour lui, une relation sexuelle, il ne voyait pas le rapport, la relation avec une perspective de fécondité. Il ne se sent pas père alors qu'elle se sent enceinte. Et là, il y a un travail d'explication entre hommes et femmes qu'il faut accompagner.
Valentina Salona, vous avez entendu quand même, c'est terrible. En 2016, on n'est plus à l'époque de l'obscurantisme. Théoriquement, des obscurantismes, il y en a encore beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'arrive pas à enseigner aux jeunes, aux adolescents, quand ils commencent à être en âge de procréer, le cycle de la femme, comment fonctionne le corps d'une femme, le corps d'un homme? C'est absolument incroyable en 2016.
Je pense qu'une partie de la réponse est déjà venue de monsieur de
Derville.
C'est clair qu'il y a une grande confusion entre procréation et sexualité, ce qui est à l'origine pour moi de la problématique. Deuxièmement, il y a effectivement ce besoin toujours de se confier à l'État pour toute éducation. On est dans une société quand même qui a la tendance à nous infantiliser, à nous enlever de nos responsabilités. On attend toujours du président de la France, du président d'Italie, de la Confédération, enfin peut-être en Suisse un peu différent, de résoudre les problèmes charisme de l'individu. Ceci dit, je pense que c'est pas juste en 2016, c'est un problème ou simplement une situation anthropologique qui vient depuis bien plus longtemps, parce que jusqu'à présent, en fait, on s'est pas forcément vraiment intéressé à la femme en tant qu'individu, on s'est intéressé à la femme en tant que mère porteuse, et on a parlé justement d'un féminisme conciliateur. Peut-être que sur ce point-là, je vais quand même dire quelque chose pour ajouter ce qui a prédit M. Derville. C'est vrai, effectivement, on a besoin aujourd'hui de pouvoir s'émanciper comme individu, donc de pouvoir exprimer plein d'autres archétypes qui ne sont plus que ceux de la femme, mais aussi les archétypes d'une jeune fille, pour citer par exemple une auteure anglaise, Miranda Gray, d'autres archétypes comme par exemple la femme sage ou bien même la femme enchanteresse qui a envie de découvrir, de se découvrir femme sous l'angle de la sexualité. Donc quand il y a cette complexité, cette difficulté à dissocier procréation et sexualité, et donc à les mettre sur deux plans différents, vous comprenez que c'est pas aux parents qu'on pourra demander une certaine éducation, pour le moment en tout cas, c'est pas à l'État, et peut-être même à certaines sages-femmes. Encore même en Suisse, on a des problèmes pour la formation, pour donner aux sages-femmes des formations complètes vis-à-vis de le cycle menstruel. Et donc,
des sages-femmes.
On a du.
Non mais c'est hallucinant, parce que les sages-femmes, c'est du personnel médical.
Mais je sais, mais vous savez, il y a plein même de gynécologues qui prescrivent encore la pilule, les stérilets en cuivre, qui sont pour moi encore pires et plus néfastes que la pilule contraceptive. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un travail en amont qui doit être fait gentiment. Et comme il disait aussi M. Derville, par rapport aux associations qui prennent à charge l'éducation et l'accompagnement des femmes ou des couples. Ah, une autre chose que je voudrais ajouter, pour moi, c'est fondamental de pouvoir encore une fois sortir les méthodes naturelles ou simplement le rapport à sa propre sexualité du couple. Et j'ai l'honneur de pouvoir commencer à enseigner le cycle menstruel aux homosexuels. C'est-à-dire que la femme commence à s'approcher au cycle menstruel comme un bijou, comme un joyau, pour son propre corps, pour sa propre vie, pour exploiter enfin son propre potentiel. Et c'est là où elles peuvent découvrir que le cycle menstruel vient aider leur système immunitaire et, comme il disait encore une fois M. Derville, l'écologie de leur propre être. Donc pour moi, c'est quelque chose qui enfin peut dépasser la sexualité ou la procréation, mais peut aller dans la direction de l'autonomie et de l'évolution du corps mental de notre espèce humaine.
0826 300 300, on écoutait très attentivement ce que vous disiez, hein, Madame Salona, il y a un instant. On est à 59% de oui, enfin en tout cas d'accord avec votre affirmation sur les contraceptions et sur le fait qu'on est en retard. Je vous lirai dans un instant le poste de Tark qui parlait notamment des MST, hein, les maladies sexuellement transmissibles. Ça aussi, c'est une thématique qu'il faudra aborder dans l'émission. Dernière ligne droite, on revient dans un instant, tout de suite.
Sud Radio.
Seul.
Contre tous. 9h-11h.
Philippe David.
Seul contre tous de ce lundi matin, la contraception, visiblement, on est en retard en France. C'est ce qu'affirme notre Philippe David International.
De temps en temps, je peux dire avec la Suisse, exactement.
Alors, vos réactions, sudradio.fr et le standard 0826-300-300. Je vous disais que je vous lirai un petit message de Tark qui dit on peut noter également l'augmentation des cas de MST, donc les maladies sexuellement transmissibles, alors qu'elles avaient reculé il y a 20 ans, je pense, notamment au sida. On en parlait il y a quelques minutes. Donc, oui, Philippe, on est en retard ou plutôt on recule en France?
Absolument, on recule. Alors évidemment, le problème de la contraception, ça peut dans un seul cas, servir également de prophylaxie contre les MST, c'est le préservatif. Tuguel Derville, vous n'êtes pas contre le préservatif? Alors comme méthode contraceptive, il y a plus sympathique, on va dire ça comme ça, mais comme méthode de prévention des MST, c'est la seule.
Oui, vous dites, oui, bien sûr, et vous dites vous-même, c'est pas très sympathique, et c'est ça qui est un enjeu qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que quand on dit, je pense notamment...
Je le dis, mais je pense que 99% des hommes, bien et même sûr. Peut-être des femmes, le diraient aussi.
Bien sûr,
hein.
Et vous voyez, mais c'est très emblématique, c'est-à-dire que il y a, dans la façon dont on parle de sexualité aux jeunes, de manière à la fois étatique, de manière avec des slogans, avec des campagnes, on leur demande de se protéger, de se protéger, de se protéger. Et en fait, quel impact cela a sur leur regard par rapport à la sexualité, à la fécondité et au corps. On s'aperçoit qu'il y a eu une corrélation entre la montée des MST et le déploiement du discours tout contraceptif. C'est le grand paradoxe. Et d'ailleurs, je me disais, en pensant au retard, en fait, on a peut-être deux regards complémentaires sur le retard. Vous, vous dites, sauf erreur de ma part, il faudrait en faire plus sur la contraception.
Absolument.
Moi, je dis, on est déjà dans le record du monde en France. On est à 90% d'usage de contraceptifs par les femmes. On va dans plein de méthodes différentes.
Et pourtant, le taux d'avortement ne baisse pas. Voilà. Le nombre d'avortements ne baisse pas. C'est la preuve qu'on ne fait pas assez.
Non, justement, moi je dis parce qu'on en fait trop. On en fait tellement que finalement, on aboutit à des pratiques à risque, à des pratiques irresponsables. On le voit très bien. Hein. Les jeunes gens, ils font un test de sida, ils vérifient. Ensuite, ils enlèvent le préservatif. Après, ils ont des grossesses imprévues. Après, il y a un avortement. On s'aperçoit que le discours sur une sorte de libération entre guillemets sexuelle se passe très souvent au détriment des filles qui doivent être disponibles, qui doivent passer, je dirais, à l'acte quand souvent elles ne le désirent pas parce que c'est partie des rites initiatiques à leur âge et à l'arrivée avec des conséquences, beaucoup d'avortements chez les mineurs et des MST qui augmentent. Et là où je peux reconnaître que nous sommes en retard, c'est qu'on est en retard sur des méthodes nouvelles, des méthodes plus modernes, celles qui est évoquée en Suisse mais qui existent aussi en France ou ailleurs, des méthodes qui réconcilient...
Ah, c'est sûr que les méthodes sont internationales. Hein.
Bien sûr, qui réconcilient les femmes et les hommes avec leur physiologie, avec leurs différences. Et là, il y a peut-être effectivement un autre type de retard où je vous rejoindrai en disant, voilà, il y a 50 ans maintenant qu'on utilise... Les promoteurs, notamment, puisque c'est le sujet qui mobilise beaucoup pour moi, parce que je pense que tout avortement est un échec et une souffrance, et je ne juge pas, absolument pas les femmes. J'accompagne des femmes qui ont vécu l'avortement. Je pense qu'il faut écouter tout ce qu'elles nous disent, tout ce qu'elles expriment. Eh bien, trouver une autre solution, une véritable prévention de l'avortement, trouver une régulation des naissances qui soit compatible avec la vie des couples, voilà ce que je pense qu'on peut tous souhaiter.
Alors, petit message sur radio.fr de Dari qui nous dit: le planning familial, qu'il soit en France, en Allemagne, en Suisse ou dans toute l'Union européenne, n'explique jamais aux filles, aux femmes, leur cycle. C'est là le scandale, après tout.
Ah ben, on va demander à Valentina Salona, parce que Harry a cité la Suisse. Je vais vous faire réagir également sur le message de Tark. Dites-moi, le préservatif, c'est quand même pas la panacée en termes de méthode contraceptive. Par contre, ça a au moins le mérite de protéger des MST, Valentina Salona.
Effectivement, mais même pas toutes les MST. Il y a la transmission des fameux condylomes qui n'est pas forcément empêchée par l'utilisation du préservatif. Et ensuite, il y a la problématique de ce qu'on dit en Suisse, la capote qui pète. C'est-à-dire que, effectivement, beaucoup de...
La rupture de préservatif, on dit ça en France.
Oui, voilà, exactement. Pour plusieurs raisons, ça peut être à cause de la sécheresse vaginale, de la taille du pénis, etc. Il y a des préservatifs qui, effectivement, même s'ils sont de bonne marque, explosent. Et du coup, là, on est face à des risques non seulement de grossesse, mais effectivement de maladies sexuellement transmissibles.
Et vous avez entendu ce qu'a dit Harry. Est-ce qu'en Suisse, dans les plannings familiaux, on n'explique pas le cycle de la femme aux femmes qui viennent avorter?
Oui, malheureusement, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, d'un côté, on est avant-gardiste, parce que c'est justement en Suisse que la méthode de la symptothermie moderne, avec l'application sympto.org, est mise au point. Et du point de vue historique, c'est complètement nouveau, parce que tous les indices de fertilité sont réunis sur un logiciel didacticiel le plus sûr au monde. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a encore l'arrière-garde, les conservateurs, qui ont encore, si vous voulez, besoin de la protection du savoir médical en vigueur pour pouvoir exercer. Et donc, c'est vrai que dans le planning familial, on conseille directement la pilule aux jeunes filles. Je rebondis là-dessus. La pilule n'est pas là pour protéger des MST. Donc,
souvent,
les filles, elles font beaucoup de confusion par rapport à ça. Hein.
Oui, la pilule ne protège pas du sida. Par exemple, Tugduel d'Herville, vous avez entendu Valentina Salona, pas d'enseignement dans les plannings familiaux suisses. C'est la même chose en France?
Oui, je pense qu'il y a... Moi, j'ai eu pas mal de débats avec des personnes du planning, ou d'ailleurs, et au fond, il y avait chez elles une forme de désillusion, parce qu'elles pensaient que la libération aboutirait à des IVG marginales, à une harmonie absolue dans les couples. C'est pour ça que ce n'est pas le cas. Les couples souffrent encore, y compris de malentendus autour de la fécondité. Et du coup, j'entendais des gens qui disaient, mais il faut tout. Il faut à la fois la pilule, le préservatif. Et puis,
les gens disaient... Si on met un stérilet, qu'on prend la pilule, que le mari prenne des préservatifs, ou le monsieur, oui, là, il y a peu de risque de tomber enceinte, théoriquement. chambre. Hein.
Oui, mais ça fait un peu beaucoup et il y a une lassitude. Il y a un désir profond quand même de ne pas dépendre d'un matériel. Enfin, la sexualité, c'est naturel. La grossesse aussi, c'est naturel. Ce n'est pas une maladie. Est-ce qu'on ne peut pas espérer tout de même au XXIe siècle, avoir des techniques, des méthodes qui ne soient pas médicalisées lorsqu'il s'agit de réguler la fécondité.
On va parler des sujets qui fâchent. 50 ans, presque 50 ans, à un an près après la loi Neuwirth, une Française sur trois a déjà eu recours à l'avortement, une lycéenne sur 10 en Île-de-France a déjà avorté et une sur 5 a déjà eu recours à une contraception d'urgence. Quel échec ! Comment expliquer que 50 ans, un demi-siècle, après la loi Neuwirth, une Française sur trois est avortée et une lycéenne sur 10 en Île-de-France, Luc Dualderville ?
Je vous l'ai dit, il y a une compatibilité, malheureusement, entre un très fort taux d'usage de produits contraceptifs et un fort taux d'avortement. Parce qu'en cas d'échec, les femmes se sentent obligées.
Mais c'est hallucinant parce que c'est comme si vous disiez, écoutez, j'ai acheté une voiture super protégée, il y a triple airbag, trois contenants, trois ceintures de sécurité et finalement, j'ai eu un accident.
Non, la comparaison est excellente. C'est comme si, avec toutes ces techniques, vous rouliez à 400 à l'heure en disant, moi, je suis protégé, je fonce. Et le résultat est là, c'est ce qui se passe. Et donc ça déresponsabilise, trop de protection d'une certaine manière déresponsabilise et aboutit à des comportements à risque et au résultat inverse de celui qu'on espérait. Et moi je suis triste parce que je me rends compte aussi que toutes ces jeunes filles qui commencent leur vie sexuelle par un avortement, toutes ces femmes qui se retrouvent aussi dans des grossesses imprévues difficiles avec à un moment donné cette IVG qui arrive dans leur vie et qui parfois casse beaucoup de choses dans leur existence sur le plan de leur relation conjugale, sur le plan de leur sexualité, de leur image d'elles-mêmes, toutes celles-là ont souvent des larmes qui sont interdites, elles ne s'autorisent pas à exprimer leur souffrance parce qu'on leur dit, on les culpabilise, on les infantilise, c'est parce que tu as oublié ta pilule, c'est de ta faute. Et moi je dis non, c'est absolument normal que quand on prend un produit tous les jours, à un moment donné, un jour ou l'autre, on l'oublie. Ça fait partie malheureusement du recours naturel à ces techniques. À un moment donné, on l'oublie et c'est pour ça qu'il faut peut-être trouver d'autres systèmes.
Valentina Salona, vous avez entendu les chiffres. 50 ans ou presque après la loi Neuwirth, une Française sur trois a déjà avorté. En Île-de-France et la région parisienne, une lycéenne sur 10. Quel échec ! Quel échec !
Oui, je pense que par rapport aux chiffres, on n'est pas très loin de ça en France, en Suisse. Je trouve en fait que c'était très beau d'affirmer que la fertilité, la fécondité n'est pas une maladie et que l'excès de protection crée des dégâts. Parce qu'encore une fois, on remet ailleurs, à l'extérieur de nous et de notre responsabilité, notre sécurité. Et c'est là le cœur de notre problématique et de la situation actuelle de l'Occident, mais de l'Orient aussi. Une chose que j'aimerais rajouter, c'est aussi la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire que on sait qu'effectivement, quand une femme doit passer par l'expérience de l'IVG ou bien voilà d'une violence ou autre, on parle jamais de la douleur de l'homme. Beaucoup d'hommes se trouvent face au fait que la femme, par exemple, décide de garder l'enfant et que voilà lui, même s'il n'était pas assez responsable pour assumer lui-même la fertilité, donc pas juste d'éjaculer, il se retrouve confronté à une réalité qu'elle est fortement discriminatoire vis-à-vis de l'homme. Parce que dans l'éducation de la femme, je suis convaincue qu'on doit s'occuper de l'éducation de l'homme, pouvoir lui donner la possibilité d'exprimer ses émotions, de se construire dès le départ aussi face à ses propres faiblesses, face à ses propres envies. Parce que, encore une fois, s'il éjacule, parce que tout ce qu'on demande aux enfants, aux jeunes garçons, c'est quoi ? Qu'ils doivent être forts, qu'ils doivent s'occuper du nid futur, qu'ils doivent tenir tête à la carrière, qu'ils doivent s'occuper de la famille, qu'ils doivent être forts, qu'ils doivent aller à la guerre, hein, pour citer un peu des mots un peu archaïques. Mais en fait, on les laisse complètement dépourvus de tout outil de responsabilisation. Donc, dans une démarche de conscientisation de notre potentiel fertile et de notre être conscient, les hommes doivent être informés et doivent avoir leur droit au non. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas un enfant, ils doivent pouvoir avoir le droit de dire non bien avant l'éjaculation, mais il faut les éduquer pour ça. Vous voyez un peu ma position aussi. C'est pas que les femmes qui souffrent d'un enfant qui vient au monde ou pas. Il y a les hommes aussi qui souffrent d'une décision qui finalement touche que la femme. C'est que la femme qui décide à la fin si garder un enfant ou pas. Donc, eh ben,
Duel d'Hervil veut réagir, Valentina Salona.
Oui, non, juste, je rebondirais sur ce qui vient d'être dit par Valentina Salona. Effectivement, nous, on accompagne beaucoup d'hommes qui se trouvent extrêmement dépourvus parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'une relation sexuelle pouvait aboutir à une grossesse.
Et les, voilà. Les hommes ne se renseignent pas auprès de leur compagne s'il y a des sous-contraception, etc.
Il y a eu un oubli de pilule et donc ils pensaient être garantis à 100% contre le fait d'être père. Ils se retrouvent père, ils ne le ressentent pas et nous essayons de les accompagner dans une vraie souffrance qu'il faut entendre, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance? Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue avant. Parce,
oui.
Parce que la technique a effacé tout dialogue.
Encore une fois, que de tabous en 2016.
Voilà. Sans entretenir de stéréotypes, je dirais que d'une manière très courante, la femme a au fond d'elle très souvent un désir de cette fécondité. Et amendée, on parle d'ailleurs d'oubli ambivalent de pilule. Mais elle pense, elle croit que son compagnon va réagir comme elle. Et très fréquemment, il réagit au contraire avec beaucoup de souffrance et donc de rejet, voire de violence. Et leur couple explose. Et au fond, la naissance de cette vie qui est liée à leur relation sexuelle aboutit à la séparation du couple. Et la femme donc dit à l'arrivée, je perds sur les deux plans, parce que souvent elle avorte et elle perd son compagnon.
Eh bien, écoutez, ce fut un débat absolument passionnant. Marc Leval, où en est-on?
Alors, écoutez, ça n'a pas énormément évolué. On est resté au stade des 58, entre 58 et 60% à être d'accord avec vous, car visiblement, on l'a bien entendu en France, comme en Suisse, apparemment, ou partout dans la communauté européenne, il y a encore un gros problème sur la contraception, sur la communication
et
sur l'éducation
États-Unis.
Autour de cette contraception. Justement, il reste beaucoup à faire, et notamment, c'est le cas pour en parler aujourd'hui avec la Journée mondiale de la contraception. C'est aujourd'hui. Merci infiniment à tous.